Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Esprit d'équipe, es-tu là ? En cette année olympique, je vous propose un épisode sur le collectif. Comment expliquer que parfois l'alchimie est au rendez-vous alors qu'à d'autres moments, la mayonnaise ne prend pas ? Si le rôle du manager est bien sûr déterminant, tout ne repose pas non plus sur ses épaules. Alors, quel est le secret des équipes qui performent durablement ? La réponse avec Ludovic Giraudon, auteur du best-seller Dream Team. D'abord auto-édité et vendu à plus de 40 000 exemplaires, son livre vient de sortir dans une édition mise à jour et augmentée aux éditions Marabout. Il nous dévoile les clés pour vous créer une équipe de rêve. Bonjour Ludovic.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Bah super bien, ravi d'être ici.
Ah, plaisir partagé. Pour commencer, qu'est-ce qui caractérise une bonne équipe ? Quels sont, selon toi, les ingrédients qui font toute la différence ?
Je dirais, enfin, il y a un truc spontané qui me vient tout de suite en tête, c'est le côté, la capacité à libérer la parole et à se dire les choses en temps réel au fil de l'eau. Et c'est compliqué à mettre en place, mais c'est vrai que c'est ça qui fait, moi je peux le voir dans tous les accompagnements qu'on peut faire, la différence entre une équipe qui fonctionne bien et les autres.
Ton livre s'appelle Dream Team, donc forcément on va parler basket. Je te propose d'écouter la vision de Tony Parker, que j'ai eu la chance d'interviewer pour Courrier Cadre, et tu vas me dire si tu partages son avis sur le rôle du manager, du capitaine, en bref du meneur de jeu, qu'on soit sur un terrain de sport ou en entreprise.
Je pense qu'il faut que tu aies une vision, et ton but c'est de faire adhérer tout le monde à cette vision. Moi je crois beaucoup à l'union fait la force. Tu ne peux pas faire de gros projets sans avoir une très très bonne équipe. Il faut savoir bien s'entourer, mettre les personnes au bon endroit pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Et je pense que le leader, c'est ça, c'est de donner envie aux gens de te suivre, de leur montrer que tout le monde fait partie du groupe aussi. C'est pour ça que moi, je dis toujours notre groupe et pas mon groupe, parce que de toute façon, tout seul, je ne pourrais rien faire. Et c'est pareil dans le monde du basket. De toute façon, je ne pouvais pas gagner sans mes coéquipiers. Tu peux être le meilleur joueur au monde si tes coéquipiers ne performent pas à leur meilleur niveau. Tu ne pourras pas gagner les titres.
Ouais, ça m'inspire évidemment plein de choses. Premier élément qui me vient en tête, c'est en effet, je trouve ce côté, la réussite d'un manager, c'est avant tout la réussite de son équipe. Alors évidemment, et dit comme ça, ça peut ressembler à j'enfonce une porte ouverte. Mais en réalité, en fait, si c'est ta boussole du quotidien, c'est-à-dire qu'en tant que manager, tu te dis « Ok, je vais éviter d'être trop centré sur moi, sur mes difficultés, ma course contre le temps, la pression permanente, mais que je suis vraiment le plus centré possible. » Après, on n'est pas des Wonder Woman et des Superman, donc c'est difficile à faire tout le temps. Mais ce réflexe où régulièrement tu te remets du bon côté de l'interrupteur en disant « Ok, non, je me recentre sur l'équipe », bah en fait, c'est ça vraiment qui fait la différence aussi. Vraiment cette capacité à s'intéresser à ceux qui t'entourent et à les mettre au centre de l'échiquier. Et ça, c'est vraiment pas simple parce que et ça me permet d'aborder un sujet qu'on aborde assez peu, je trouve. Je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans pas mal de boîtes. C'est-à-dire qu'effectivement, idéalement, un manager, il manage ses équipes. Le problème, c'est qu'il n'en a pas toujours les moyens et notamment le temps parce qu'il a lui-même beaucoup de sujets opérationnels. Et moi, je vois tous les jours, dans des discussions avec des DRH, des dirigeants, des managers, et où en fait, on attend énormément des managers d'une entreprise, à juste titre. Il y a beaucoup de transformations, de changements voilà, en permanence, et donc forcément, c'est un rôle clé, pivot dans les entreprises. Mais pour autant, on ne leur donne pas les bonnes clés pour réussir. Et donc, il y a un peu, ce discours un peu ambivalent qui est un peu dérangeant et qui fait qu'au final, ben, les managers tirent beaucoup la langue.
C'est plus compliqué pour un manager de proximité, justement, d'avoir ce temps-là et d'être pas forcément tout le temps aussi dans l'opérationnel ?
Ouais, complètement. Ben, moi, je le vois, le problème numéro un des managers qui viennent nous voir, c'est le manque de temps. C'est à chaque fois la même chose. C'est, si je devais faire une sorte de nuage de mots-clés qui revenaient, il y en a deux qui me viennent en tête et qui seraient en très gros, c'est des expressions, en tout cas le manque de temps et transformation slash changement. Et quand on met tout ça dans la balance, effectivement, non, ils ont... Et donc, tu as raison, plus on est proche du terrain, donc plus on est manager de proximité, plus c'est compliqué parce qu'on jongle entre ces deux casquettes. Et forcément, en général, c'est la casquette de l'opérationnel qui prend le dessus parce que les urgences du quotidien, le business, etc., font que son rôle de manager devient un peu la cinquième roue du carrosse. Et c'est vraiment dommage.
Une des premières étapes de ton livre, et dont on parle aussi, Tony Parker, c'est le recrutement, bien s'entourer. Si tu avais une clé à partager pour bien recruter, ce serait laquelle ?
S'il y en avait vraiment une seule, je dirais de ne pas se voiler la face. de ne pas tomber dans une forme de déni, parce que souvent, il y a différents biais, évidemment, dans les phases de recrutement, et on peut vite se faire éblouir par une super école que la personne a faite ou une boîte qui nous inspire énormément, par laquelle est passée la personne, et on peut baisser la garde. Et pour ça, il faut aller chercher la contradiction et donc faire rencontrer le candidat par plusieurs personnes et croiser les regards. Et s'il y a un truc qui coince, il ne faut pas le mettre sous le tapis, il faut l'affronter entre guillemets et voir si on arrive à lever les doutes qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il y a même une page où j'ai copié-collé « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ce serait vraiment celui-là.
Quand on veut embarquer les autres, la clé, c'est l'engagement. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les 5 piliers de l'engagement dont tu parles dans ton livre ?
Ouais, c'est vrai qu'en allant à la rencontre de ces centaines de managers pour écrire le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement 5 grands piliers à réunir pour en effet avoir l'équipe la plus engagée possible et pour faciliter aussi la mémorisation de ces 5 piliers. Je les ai réunis autour d'un acronyme, l'acronyme DREAM, donc rêve en anglais, qui est évidemment aussi un clin d'œil au titre du livre Dream Team, qui est lui-même d'ailleurs, on parlait de basket tout à l'heure, un clin d'œil à l'équipe de basket américaine menée notamment par Jordan dans les années 90, pour ceux à qui ça parle. Et en fait, parce que donc, ce sont les 5 initiales des piliers en question, donc tu as le D de direction, le sujet du sens qu'on trouve ou non. Donc, on retrouve aussi le sujet de la vision qu'évoquait Tony, je me permets de l'appeler Tony. Ensuite, il y a le R de reconnaissance, donc le fait de se sentir valorisé ou non dans son job. Le E d'environnement social, donc tout ce qui a trait à l'ambiance dans l'équipe et à la création de liens de confiance, parce que ce qui va faire qu'on est content aussi de se lever chaque matin, c'est pas que le sens ou la reconnaissance, c'est aussi tout simplement le plaisir qu'on a retrouvé ses collègues. Ensuite, il y a le A d'autonomie, donc le fait de sentir qu'on a de l'impact, qu'on a... qu'on est responsabilisé finalement à son juste niveau. Et enfin, le M de monter en compétence, c'est-à-dire le sentiment de progresser, d'apprendre régulièrement de nouvelles choses.
En quoi ces 5 piliers sont vraiment fondamentaux au quotidien ?
Alors, en fait, ils sont fondamentaux à partir du moment où on se connaît bien. Parce que parmi les 5, on est tous sensibles de manière assez différente à la reconnaissance. Par exemple, je sais pas, il y a certaines personnes, ils animent une réunion en présence de leur manager. Si leur manager ne leur dit rien à l'issue de la réunion, ils vont tout de suite penser « Ok, j'étais nul, c'était une catastrophe. » Voilà. Il y en a pour qui le feedback, par exemple, c'est notamment le feedback positif, c'est vital. Il y en a d'autres, franchement, ça va leur passer au-dessus, ils vont même pas se poser la question. Pareil sur la montée en compétences. Il y a des personnes, quand elles n'apprennent plus dans leur job, elles quittent leur job parce qu'elles ont besoin d'être nourries, stimulées. Voilà. Il y en a d'autres, rester dans leur zone de confort et avoir un job qui roule et sans... de trop profonde remise en question, ça leur pose pas forcément de problème. Et donc, en fait, parmi les 5, moi, je vois souvent ça comme des jauges, en fait, où en face de chacun de ces piliers, tu as une jauge. Et déjà, première question, c'est quel est l'ordre de priorité pour toi, à titre personnel, dans ta vie professionnelle, lequel ou lesquels sont les plus importants pour toi. Et une fois que tu as repéré le plus important pour toi, c'est aujourd'hui, par exemple, si c'est le M de monter en compétences, est-ce que tu apprends suffisamment dans ton job ? Est-ce que ce besoin fondamental est suffisamment nourri ou non ? Et si ce n'est pas le cas, c'est là où une discussion avec ton manager est importante pour réfléchir, déjà pour lui exprimer ce besoin vital pour toi, qu'il l'ait en tête, et ensuite qu'on puisse réfléchir ensemble à une sorte de plan d'action à 3, 6, 12 mois pour justement que ce besoin soit mieux nourri. Et c'est pour ça que ça, c'est fondamental, c'est que quand tu es connecté à ton besoin vital et que ce besoin est suffisamment nourri, en fait, tu ne te poses plus de questions, dans le bon sens du terme, tu es content de te lever le matin, d'aller au boulot, parce que tu y retrouves ce que tu viens y chercher personnellement. Et c'est vrai que ça rejoint une dimension clé du manager, la personnalisation. Comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens avec lesquels ils travaillent par rapport à leur boulot. Et c'est en ça que ces piliers-là sont, de mon point de vue, vraiment essentiels.
Quand on parle de reconnaissance, tu le disais, il y a le feedback. Alors, j'aime bien un des titres de ton chapitre qui est « Comment devenir ceinture noire en feedback ?» Alors, concrètement, comment on fait ?
Ouais, je pense qu'avant tout, déjà, c'est une histoire de méthode. Parce que c'est vrai que, bien souvent, quand on veut faire des feedbacks, parfois, on est maladroit et souvent blessant, notamment quand c'est des feedbacks qui ne sont pas forcément 100% positifs. Et donc, je pense que déjà, c'est une prise de conscience de ce qu'est réellement un feedback et qu'un feedback, ce n'est pas pour tacler l'autre. C'est au contraire, c'est quelque chose de très centré sur la personne. C'est lui proposer des axes de réflexion, le nourrir. Feed, c'est la traduction littérale. Et donc, de le faire réfléchir en vue de progresser. Donc, premier conseil, c'est déjà prendre conscience de ça. Ensuite, c'est de partager cette définition ensemble au niveau de l'équipe. pour que on ait le même référentiel et que le manager aussi fasse comprendre à son équipe qu'il n'est pas parfait et qu'il a besoin de son équipe aussi pour s'améliorer parce que lui aussi a des angles morts et des choses qu'il pourrait mieux faire. Et ensuite, c'est en effet de la méthode, essayer d'avoir une structure de feedback qui évite de tomber dans les travers de la communication violente, qui parfois peut vite arriver en fait, dans l'urgence du quotidien quand on ne prépare pas ça. Et puis après, je dirais, c'est de se lancer en fait.
Concrètement, au quotidien, pour incarner ces piliers, est-ce que selon toi, les rituels sont indispensables dans la vie d'une équipe ?
Ouais, pour moi, c'est vraiment le socle de l'équipe. Pourquoi ? Parce que justement, on parlait de cette course contre le temps. Et donc, pour lutter contre elle et ses méfaits, c'est-à-dire ce côté où on passe à côté de l'essentiel, on court dans tous les sens et on fait plein de choses un peu déstructurées. Et finalement, on a assez peu de temps de qualité avec les uns et les autres. Les rituels permettent de retrouver ça et de préserver des temps de qualité, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et justement, en effet, ce sont dans ces moments qu'on peut pratiquer tout un tas de choses en tant que manager, dont le feedback, parce que sinon, encore une fois, ce n'est pas entre deux réunions que tu peux le faire. Il faut avoir l'esprit libre, il faut être un peu posé, à la fois du côté collaborateur et du côté du manager. Et c'est en ça que les rituels sont vraiment fondamentaux.
Tu en partages beaucoup dans le livre. Si tu devais en détailler un ou deux, ce serait lesquels ?
Je dirais le roi des rituels, pour moi, c'est vraiment le one-to-one, le point individuel, le point en tête-à-tête, on l'appelle comme on veut. Parce que pour, encore une fois, savoir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de quelqu'un, c'est impossible de le faire s'il y a du monde autour de toi. Moi, je prends souvent l'image d'une soirée d'anniversaire. Si tu veux fêter ton anniversaire avec une vingtaine de copains, évidemment, tu vas passer une super soirée, c'est génial. Voilà, mais en réalité, tu vas un peu papillonner d'un invité à l'autre sans forcément prendre le temps d'avoir des discussions vraiment profondes. Tu vas rester sur des discussions très court-termistes, sur comment ça se passe, comment ça va, qu'est-ce que tu bois, et qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire demain. Alors ça, c'est évidemment essentiel, mais en fait, si tu fais la même chose, mais en prenant un verre ou en déjeunant avec chacun d'entre eux individuellement, forcément, tu vas prendre le temps de rentrer dans le détail de comment ça va, mais en réalité, de manière beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui les gêne dans leur vie, au contraire, qu'est-ce qui est source de satisfaction pour eux, comment ça se passe, mais en profondeur. Et si je reviens dans l'univers des one-to-one, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu es tout le temps entouré de ton équipe, à la machine à café, en réunion d'équipe ou autre, on ne se dit pas la même chose que quand on est en tête-à-tête dans une salle avec un temps relativement long pour discuter et faire sortir les choses, si tant est qu'il y ait des choses à sortir, évidemment.
La vie d'une équipe n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir mener des conversations difficiles, faire parfois avec les rivalités, se remettre de conflits aussi au sein d'une équipe. Je vais te lire un extrait du livre « Équipe gagnante » de Béranger Brito sur la Coupe Davis. On passe au tennis cette fois. Une manière, là encore, de s'inspirer du monde du sport. Tu vas le voir avec trois regards, celui de Guy Forget, de Yannick Noah et d'Henri Lecomte, pour essayer de comprendre en quoi une bonne communication et un bon état d'esprit, ça peut tout changer. Guy Forget. Yannick Noah a su tirer le bilan des erreurs du passé et faire son mea culpa. Il nous l'a dit d'ailleurs dans l'un de ses premiers discours. Écoutez les gars, on avait il n'y a pas si longtemps le potentiel pour gagner la Coupe Davis. On l'a pas fait et je considère que j'en suis en partie responsable. J'ai commis des erreurs et je n'ai pas tout fait pour qu'on gagne. Les erreurs que j'ai pu commettre, je ne veux pas qu'elles se reproduisent. Ça a été pour moi un discours fondateur, la première pierre posée par Yannick. Et puis il est devenu hyper rigoureux avec nous comme personne ne l'avait jamais été. Yannick Noah cette fois. La priorité était qu'il y ait une bonne ambiance et que les gars se rendent compte qu'on a un potentiel pour aller loin. Donc on a essayé d'établir une communication, de se parler, de se rapprocher. Pour aller au bout de ce qu'on est capable de faire dans des situations aussi cruciales qu'une finale de la Coupe Davis, il faut être léger sur le terrain. Ni doute, ni mensonge, pas de non-dit, pas de rancœur étouffée. La plupart des joueurs qui se sont éclatés dans notre groupe l'ont fait en se dépouillant de leurs idées reçues et de leurs complexes. Ils ont su se mettre humblement au service de l'équipe, trouver en eux ce qu'ils avaient de mieux à offrir. Et enfin, Henri Lecomte, Yannick a su nous souder, on s'est réunis tous les trois, on a beaucoup parlé de notre rivalité, des non-dits, des frustrations, des vérités ou des mensonges de chacun. Une vraie discussion dans laquelle on s'est dit les choses, bas les masques, l'abcès était crevé, et ça, sans Yannick, ça n'était pas possible.
Ouais, ça m'évoque là aussi plein de choses, mais je dirais avant tout l'exemplarité, on l'a entendu, avant même ça, l'authenticité, alors, cette capacité à dire aussi en tant que manager ou leader ou dirigeant, ce qu'on veut, de livrer ce qu'on a sur le cœur et ses doutes, ses difficultés, ses erreurs aussi, tout de suite, ça nous dit qu'un manager est un membre de l'équipe à part entière. Et il n'est pas au-dessus de la mêlée, il est avec les autres, au milieu des autres, autour des autres. Donc ça, je pense que c'est essentiel. L'exemplarité, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, attendre, être exigeant de la part de ces équipes, si soi-même on n'est pas impeccable, c'est compliqué. Ça me fait penser souvent à cet exemple. Moi, j'assiste souvent à des codires dans le cadre des accompagnements qu'on peut faire. Et je me rends compte souvent que, évidemment, la dirigeante ou le dirigeant, c'est le premier à dire qu'il faut que les managers écoutent leurs équipes, que l'écoute est au centre de tout. Et en revanche, ce sont les premiers à avoir leur téléphone sur le bureau et à traiter leurs mails. Voilà, et pas du tout écouter en fait ce qui est raconté la moitié du temps. Donc c'est compliqué derrière, évidemment, d'être crédible. Et je crois que la notion de crédibilité, elle est vraiment importante. Et donc, vraiment, et c'est intéressant parce qu'il redisait ce côté, l'importance de se dire les choses, de vider son sac régulièrement. D'ailleurs, il y a des rituels assez intéressants là-dessus. Moi, j'appelle ça l'atelier anti-frustration, où en fait, chacun vient livrer un peu toutes les frustrations qu'il a par rapport à la vie d'équipe. Il y a trop de bruit dans l'open space, il n'y a jamais de capsule à machine à café, on ne trouve jamais de salle de réunion. Tous ces petits trucs qui ne sont pas grand-chose pris isolément, mais qui, mis bout à bout, peuvent, à certains moments, bah, faire qu'on pète un câble ou que, voilà, qu'il y ait des micro-tensions au sein de l'équipe. Bah, mettre régulièrement ça sur la table, en parler, les traiter, bah, c'est ça qui permet, au fil de l'eau, bah, d'éviter que le sac à frustration ne se remplisse trop vite. Et en général, bah, au bout d'un moment, c'est même trop tard. On finit même par quitter l'équipe, quitter la boîte, ou à minima, bah, générer des tensions au sein du groupe. Et donc, cette capacité, en effet, à se parler fréquemment, et ça, c'est difficile à faire. Hein. C'est, ça, c'est dès, je crois, le recrutement que ça se passe. C'est-à-dire que cette culture de la parole libérée et de la notion de sécurité psychologique, ce sont vraiment des choses qui sont difficiles à bâtir, mais quand on y arrive, bah, c'est vraiment magique.
On voit, le rôle du manager est clé, mais il ne peut pas tout faire non plus dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collaborateur, en tant que membre d'une équipe, pour essayer que l'alchimie prenne aussi ?
Ouais, c'est effectivement, on est vraiment dans une ère de du rééquilibrage de la relation manager-collaborateur. Moi, je suis frappé quand même d'un truc, c'est qu'on parle de plus en plus de management bienveillant, ouvert, collaboratif, participatif. Et le truc, c'est que je vois des collaborateurs qui ont du mal aussi à endosser de leur côté cette posture-là et à prendre en fait leur responsabilité. J'ai une anecdote qui me vient en tête, c'est dans une boîte assez grosse d'ailleurs. Un manager en avait un peu marre de la période des augmentations salariales parce que c'était toujours un moment frustrant pour tout le monde. Il y avait des jalousies, il y avait des déçus. Voilà. Et donc, la période des augmentations arrivait et il a décidé en fait de confier à l'équipe. Il a dit, bah, en fait, démerdez-vous, entre guillemets, débrouillez-vous. Voilà l'enveloppe à la disposition de l'équipe et discutez-en entre vous pour trouver les bonnes réponses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ils sont revenus vers le manager en disant, on n'y arrive pas, aide-nous, fais-le s'il te plaît. En fait, c'était la bonne méthode. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que bah, c'est vrai que il faut aussi que les collaborateurs apprennent. Et je pense que c'est aussi des postures sur lesquelles on devrait former d'ailleurs les équipes au management de soi-même, au management de son manager, de ses collègues. Et je pense que ça, c'est là aussi, on touche à la culture de l'entreprise. Je trouve que dès les entretiens de recrutement, on devrait parler de ces sujets-là, si tant est que ce soit un élément de culture de l'entreprise en question. Mais c'est vrai qu'on en attend beaucoup des managers, souvent trop. Et en effet, responsabiliser les équipes et leur faire comprendre qu'elles ont un rôle à jouer dans le partage de la vision, dans la mise en place de process, dans la notion de solidarité, dans la compréhension aussi de son manager et de ce qui se passe aussi dans sa tête et dans son cœur, de lui poser des questions, de l'écouter, je trouve que forcément une relation se construit à deux et donc c'est un élément important. Et je crois que vraiment dans les prochaines années, j'espère en tout cas, qu'un focus sera mis aussi sur les équipes et sur les soft skills et ce côté posture collaborateur qui est essentiel. Et souvent, on cantonne ces sujets-là en fait, au management, à commencer par les formations.
Est-ce que c'est plus dur de faire équipe en mode hybride aujourd'hui ?
Oui, enfin, c'est une conviction en tout cas, parce que c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte, en discutant continuellement avec des managers, que évidemment, le travail à distance a beaucoup d'avantages, mais il a quand même un énorme inconvénient, c'est que, qu'on veuille ou non, il dégrade le lien social. Et donc, bah, forcément, ça rajoute du challenge au challenge. Déjà que manager, c'est compliqué. Le faire à distance, ça rajoute de la difficulté. Parce que, encore une fois, pour se dire les choses, si on revient sur quelques éléments qu'on a déjà évoqués, se dire les choses fréquemment et vider son sac, bah, avec la distance, c'est plus difficile. on capte moins de choses aussi. Donc les rituels, c'est compliqué aussi parce que quand ils sont tantôt en présentiel, tantôt à distance, la qualité n'est pas la même. Je pense que ça passe vraiment par un cadre co-construit avec l'équipe et hyper fort, écrit, diffusé à tous. Et justement, pour pouvoir, si jamais il y en a un, que ce soit d'ailleurs n'importe quel membre de l'équipe qui en sort, pouvoir le recadrer, le remettre dans le cadre et lui rappeler ces règles-là. Mais oui, c'est beaucoup plus difficile et j'envoie mes meilleures ondes positives à tous les managers qui nous écoutent et qui sont dans un contexte hybride.
Si je t'emmène dans le futur, en 2050, à ton avis, ce sera quoi la question par rapport au collectif, à l'équipe ?
Je pense que ce sera... la question qu'on pourra se poser, c'est à quoi servent les managers ? Est-ce qu'on en a encore besoin, justement, dans cette tendance du management de plus en plus collaboratif ? Est-ce que demain, on n'aura pas des modes d'accompagnement plutôt que de management avec des collectifs d'accompagnement temporaires, adaptés à ton besoin ? Et où, finalement, d'ailleurs, tout le monde pourrait devenir accompagnateur. Moi, j'aime bien ce mot. Je pense que ce sera ça, la clé, c'est de réussir à faire tourner les personnes pour éviter que le pouvoir et les informations, et du coup aussi la pression qui va avec, soit beaucoup plus partagée sur plusieurs épaules plutôt qu'une seule.
Alors, le podcast Good Job est aussi un travail d'équipe, puisque chaque invité pose une question à mon invité suivant. Donc, je vais te faire écouter la question d'Isabelle Payot, qui était venue nous parler de burn-out dans l'épisode 19 de Good Job.
Je pense qu'on a tous été un jour, ou on sera tous un jour, victimes de burn-out. Donc, j'aimerais savoir si ton prochain invité a déjà souffert d'un burn-out, ou de plusieurs, ce qui voudrait dire qu'il n'a pas tiré les leçons du premier, et comment il s'en est sorti.
Alors non, mais parfois je ressens des débuts de symptômes moi je me suis mis en place un auto-rituel avec moi-même justement pour un peu sortir de ça parce que je me suis rendu compte que ce qui me gênait, et on en revient à la problématique du manager, c'est d'avoir la tête dans le guidon et d'être toujours dans l'opérationnel, dans le run. Et donc c'est un rituel que j'ai appelé la slow week, donc la semaine lente, que j'essaye de me fixer à peu près tous les deux mois. C'est une semaine donnée où je me cale zéro rendez-vous, aucune réunion, que du temps pour moi. Et ça peut être, parfois je ne travaille pas du tout pendant ces semaines-là. Parfois je travaille, mais du coup sur des sujets plus de fond, de prise de hauteur. Et en fait, ça me fait un bien fou et ça me permet de retrouver un équilibre et de retrouver du plaisir à replonger derrière dans le run.
Un petit sas.
Exactement.
Très bien, je note. Alors, je vais te demander de trouver une question pour mon prochain invité sur ton sujet à toi, l'équipe, le collectif.
Ouais. Je vais peut-être la centrer sur les managers. Je voudrais poser la question suivante, c'est quel a été ton ou ta meilleur manager dans ton parcours professionnel passé et pour quelles raisons, et question complémentaire, dans quelle mesure est-ce que cette rencontre impacte encore aujourd'hui ta vie professionnelle ?
Très bien, merci beaucoup Ludovic.
Merci Fabienne.
Je rappelle ton livre Dream Team qui sort aux éditions Marabout après avoir été auto-édité et avoir connu un beau succès en ligne. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.